Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le magazine C'est les Lodgeboards et je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures d'actualité. Nous ferons un tour complet de l'information à travers les décryptages, les analyses, les reportages de nos collègues journalistes de la rédaction. Et au programme, le reportage du jour, Lina Hadouche s'intéresse à un projet inédit, la mise en place d'un comité national de la mémoire environnementale et coloniale, qui a pour objectif de retracer et documenter les crimes écologiques hérités de l'époque coloniale et leurs impacts persistants. L'actualité économique, c'est en compagnie de Nabila Hussein qui fera le point sur le projet de loi de finances 2026, un appel des députés à plus d'équité territoriale et à une meilleure gestion des dépenses publiques. Et dans l'instant santé, focus sur le diabète qui touche plus de 14% des Algériens. Hassan Chemesh a rencontré le professeur Ammar Tebaibia, chef de service de médecine interne à l'hôpital d'El Bier, pour mieux comprendre la prise en charge de cette maladie. Zoom sur le monde avec Mariam Abdou, retour sur la situation en Palestine occupée où l'agence pour les réfugiés palestiniens est de nouveau prise pour cible. Les restrictions et les blocages imposés par l'entité sioniste se multiplient, aggravant la situation sur le terrain. Reda Menassel nous emmènera au-delà de notre système solaire dans la rubrique TIC et médias avec une découverte qui passionne les astronomes, un objet interstellaire repéré durant l'été 2025 qui est baptisé Troyes Atlas. Ce corps céleste offre aux scientifiques une occasion unique de mieux comprendre la formation des planètes. Et nous suivrons la suite de la 26e édition du Salon international de l'artisanat en deuxième partie de ce magazine avec Sidali Fares qui nous plongera au cœur de ce rendez-vous économique et culturel majeur qui réunit au Palais de la Culture les artisans et les professionnels. Toute l'actualité dans le magazine et c'est jusqu'à 19h. On commence tout de suite par le reportage du jour.
Le reportage du jour.
Lina Hadouche s'intéresse au Comité national de la mémoire environnementale coloniale, un projet inédit qui vise à documenter les crimes environnementaux de la période coloniale dont les effets se font encore sentir dans plusieurs régions du pays.
Les séquelles environnementales laissées par la France coloniale continuent de marquer plusieurs régions du pays. La plus connue reste celle des essais nucléaires. Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire.
Il faut rappeler que les explosions aériennes qui ont eu lieu à Ardian, donc il y a eu 4 explosions aériennes, dont la première réservoir bleu était énorme de 70 kilotonnes, ont pollué l'environnement de tout le territoire algérien, mais aussi au moins 26 pays africains. Par ailleurs, l'accident du Béryl au niveau de Inekep, donc c'était une explosion souterraine, mais il y a eu un accident, donc il y a eu sortie de nuages radioactifs et de la lave, et cet accident a contaminé aussi beaucoup de pays voisins de l'Algérie. Aussi, il y a eu les effets nucléaires, donc ce qu'on appelle les effets complémentaires qui ont eu lieu dans des cuves et dans des fosses.
Les forces coloniales ont également eu recours à des substances chimiques telles que le napalm, nous dit Karim Arab, directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable.
Cette substance, elle est faite d'une manière à coller sur toute substance organique et à commencer à brûler. Et la température, c'est entre 800 et 1200 degrés. Donc imaginez ce qui va se passer dans un tissu organe. Le pire, c'est que même si vous essayez de l'éteindre, ça enflamme en plus. C'est pour ça que c'est une arme qui est interdite mondialement. La région qui est attaquée par le napalm, c'est une région qui devient non fertile, donc elle donne rien. Et de ce fait, donc, vous allez assister à une migration et la zone devient donc déserte.
D'autres crimes environnementaux ont également été commis. Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire.
11 millions de mines qui ont été implantées au niveau de l'Est, l'Ouest algérien, ont pollué beaucoup de régions. Il y a aussi des déchets qui sont enfouis au niveau du Sahara algérien et que la France refuse jusqu'à aujourd'hui de nous donner les cartes pour au moins pouvoir gérer cette situation. Et il y a aussi des déchets sur le sol que la France a laissé. Et ces déchets présentent un danger permanent pour la faune, la flore et les êtres humains.
De graves conséquences sur la santé ont justement été observées.
Le ministère de la Santé a recensé au moins 29 cancers. C'était le plus une dizaine de maladies cardiovasculaires. Il y a eu aussi beaucoup de malformations dans ces gens, les avortements, beaucoup aussi de maladies de la peau et encore, ils ont perdu beaucoup de cheptels dans ces régions à cause de ces armes chimiques.
Une commission nationale a donc été mise en place pour documenter ces crimes. Karim Arab, directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable.
Il vise à recenser, documenter historiquement les faits et par la suite donc se déplacer sur terrain et faire les analyses sur les lieux exacts déterminés par les historiens et les moudjahidines. Heureusement qu'il reste des moudjahidines comme témoins vivants, donc autant profiter et avoir des informations pour essayer de mettre sur la même balance l'environnement et la mémoire nationale.
Ces crimes environnementaux, comme tant d'autres commis par le colonisateur, continuent d'affecter la nature et la population et doivent être enfin reconnus.
C'était le reportage du jour avec Lina Hadouche. On passe tout de suite au journal économique avec Nabila Hussein.
Économie.
Les députés débattent du projet de loi de finances pour 2026 et appellent à plus d'équité territoriale et de rationalisation des dépenses publiques.
C'était lors de la deuxième journée du débat sur le projet de loi de finances pour 2026. Les députés ont mis en avant deux grands axes, garantir une répartition plus juste des investissements sur tout le territoire et maîtriser les dépenses publiques pour contenir le déficit et soutenir la soutenabilité budgétaire. Cela signifie que l'État entend optimiser l'usage des ressources publiques, limiter le gaspillage et orienter les fonds vers des projets à fort effet structural. Cette orientation est cruciale alors que les recettes restent contraintes et que l'économie nationale évolue dans un environnement international incertain.
Focus à présent sur le commerce extérieur, l'État lance l'indemnisation des exportateurs pour l'exercice 2025.
Tout à fait, le ministère du Commerce extérieur vient d'activer ce dispositif d'indemnisation des exportateurs algériens pour l'année 2025. Les dossiers sont à déposer via la plateforme numérique dédiée avec une échéance fixée au 1er décembre prochain. Sur le plan économique, cette mesure représente un levier essentiel pour booster les exportations hors hydrocarbures, un secteur clé dans la stratégie de diversification. Elle réduit les risques financiers des entreprises exportatrices et améliore leur compétitivité internationale. À terme, cela peut contribuer à dégager des devises et stimuler la croissance.
Et puis le ministre de l'Industrie s'est rendu à Adrar. Plusieurs projets ont été inspectés.
Oui, le ministre de l'Industrie a effectué une visite de terrain dans la wilaya d'Adrar où il a fait plusieurs escales stratégiques. Il a d'abord inspecté la briqueterie de Fenouril et ordonné l'accélération de sa réhabilitation pour qu'elle soit relancée au plus vite. Il s'est ensuite rendu à une cimenterie en cours de développement ainsi qu'à une ferme industrielle de coton destinée à renforcer la filière textile nationale. Ces projets sont importants car ils visent à créer des emplois locaux, à réduire les importations de matériaux de construction et à sécuriser l'approvisionnement national en matières premières, mais le ministre a aussi insisté sur un point clé, à savoir la gouvernance et la rentabilité de ces projets pour éviter que des unités industrielles restent à l'arrêt après inauguration.
Et enfin, un cap sur la conférence climat dès le jour 1. Le financement climatique et l'adaptation prennent le dessus dans les négociations.
Absolument. Lors de cette première journée du sommet, plusieurs signaux forts ont émergé. Le financement climatique s'impose déjà comme l'enjeu central. Les pays en développement exigeant un accès tangible aux ressources des nations les plus riches. Sur le volet adaptation, les discussions ont souligné l'urgence de passer d'engagement à des mécanismes d'investissement concrets. Il ne s'agit plus simplement de réduire les émissions, mais de financer les résiliences et les infrastructures pour faire face aux impacts. Les enjeux sont massifs. L'investissement dans l'adaptation représente aujourd'hui un coût global potentiellement énorme. Si le financement n'est pas débloqué, le coût à long terme pour l'économie mondiale pourrait exploser, à savoir pertes agricoles, coûts de relogement, sinistres climatiques, etc. La COP30 affiche donc très rapidement une double logique, la mobilisation de capitaux et la rentabilité de la résilience sous pression forte pour transformer les promesses en flux financiers mesurables.
C'était l'essentiel de l'actualité économique avec Nabila Hussein, la suite du magazine en musique avant de retrouver le reste de l'actualité. We'll be right back. La suite du magazine avec l'Instant Santé.
L'Instant Santé avec Hassan Chemesh.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Focus sur le diabète qui touche plus de 14% des Algériens. Hassan Chemesh a rencontré le professeur Amar Tbaibia, chef de service de médecine interne à l'hôpital d'El Bial, pour mieux comprendre la prise en charge de cette maladie.
Professeur Tbaibia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service médecine interne à l'hôpital d'El Bial. Professeur, on parle aujourd'hui du diabète. Le diabète, une maladie qui prend de l'ampleur dans notre société, surtout le diabète de type 2.
On parle et on en parlera tout le temps parce que cette maladie est en augmentation partout dans le monde et même en Algérie. Les chiffres de 2017, l'étude Stepwise-Wellness a démontré clairement que le chiffre, il est au moins de 14,4%. Et ce chiffre, il est en train d'augmenter, je pense, parce qu'il y a une augmentation de la prévalence de l'obésité et du surpoids, comme vous le savez. Deuxièmement, la mauvaise bouffe, le manque d'activité physique ou la sédentarité, les problèmes d'épigénétique et bien sûr aussi le stress. Il ne faut pas l'oublier. Tous ces facteurs-là contribuent à l'augmentation de cette prévalence. Et aujourd'hui, on peut dire que dans le monde, il y a à peu près 10% des personnes qui souffrent du diabète.
Parmi les facteurs, il y a l'obésité, professeur, n'est-ce pas?
C'est un élément important aujourd'hui. Chez nous, minimum de prévalence c'est 30% chez la femme et 14% chez les hommes et 10% au moins chez les enfants. Et qui dit obésité dit en général, après quelques années, risque d'apparition de diabète. C'est pour ça, si on veut justement prévenir le diabète, il faut lutter contre l'obésité et le surpoids.
La prévention, professeur, c'est un élément important.
C'est vrai. La prévention est un élément important, mais elle est difficile.
On doit commencer dès l'école.
Même avant. Je dirais avant la conception. Déjà, il faut conseiller à la maman, c'est-à-dire la femme enceinte, des règles hygiéno-diététiques pour éviter, bien sûr, de prendre du poids. Parce que la maman obèse ou diabétique, elle va transmettre justement pas mal de maladies à son bébé. C'est pour cela qu'il faut commencer déjà avant la conception, donner des conseils à la maman. Et après la naissance, c'est tout à fait normal. Il faut donner des conseils pour élever le nourrisson dans des conditions adéquates. Mais en même temps, il faut insister au niveau de l'école. téléphone. Il faut éviter l'alimentation trop sucrée. Il faut éviter, bien sûr, tout ce qui est gras, tout ce qui est salé. Mais aussi, il faut encourager surtout l'activité physique. Et donc, je peux pas donner un régime valable pour tout le monde, mais tout ce qu'on peut dire, il faut adapter ce régime au profil du patient. Parce qu'il y a des patients qui nécessitent des régimes plus stricts que d'autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il faut arrêter le sucre. Jamais, on ne pourra pas arrêter le sucre. Mais il faut le prendre avec modération. Il faut savoir le prendre.
Le diabète, professeur, il faut le dire, n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, si en fait on respecte le régime, en fait on évite ces facteurs que vous venez de citer, on vit normalement, n'est-ce pas?
Oui, un diabétique bien équilibré, en général, ne développera pas rapidement donc des complications. Il peut vivre normalement. Aujourd'hui, il y a plein de médicaments. Il y a plein aussi de conseils sur le plan nutritionnel. Mais sur le plan activité physique, c'est important, on ne pourra jamais. C'est très difficile d'équilibrer un patient s'il ne suit pas des règles diététiques, c'est important. Et chaque patient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aura des conseils particuliers pour son diabète.
Pour le traitement, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a le choix. L'Algérie, aujourd'hui, qui développe sa production locale, production pharmaceutique, nous produisons aujourd'hui tout type d'insuline.
C'est une très, très bonne chose. Alors, produire l'insuline en Algérie, je l'ai dit à maître Louis, c'était un rêve. Mais je pense que c'est un rêve qui devient réalité parce que à l'époque, l'insuline était le monopole de 3 grands labos dans le monde et c'était difficile de faire le transfert technologique ou c'était impossible. Maintenant, c'est une réalité. L'insuline, elle est produite en Algérie. Nous allons éviter les ruptures. Nous avons évité, bien sûr, les tensions et parfois aussi, nous allons éviter le chantage qui a été exercé à une certaine époque. Et ça, c'est un point important. Je le dis parce que tout simplement, je suis fier en tant qu'Algérien, comme tout les autres Algériens, d'avoir ces molécules, c'est-à-dire d'insuline, pour éviter, je dirais, la peur, parce que un diabétique, lorsque surtout le type 1 ou le diabète de type 2 qui devient insulino-dépendant, s'il n'a pas son insuline, il risque de mourir. Et d'ailleurs, avant 1921, des patients mouraient à cause du diabète parce qu'il n'y avait pas d'insuline. C'était la première révolution en 1921 et aujourd'hui aussi, il y a d'autres révolutions qui sont en train d'apparaître dans plusieurs pays, justement, grâce à la production de certaines insulines pour avoir en partie, du moins, donc la souveraineté nationale.
Professeur Amar Toubaïbi, merci.
Merci à tous.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
La suite du magazine en musique avec Carlos Santana, Smooth.
Whispering the words melt everyone, but you still. just forget about it.
De la bonne musique pour vous accompagner et de l'actualité dans ce magazine, place à l'actualité internationale.
Zoom sur le monde.
Avec Mérim Abdou, retour sur la situation en Palestine occupée, où l'Agence pour les réfugiés palestiniens est de nouveau prise pour cible. Les restrictions et les blocages imposés par l'entité sioniste se multiplient, aggravant la situation sur le terrain.
La commission des lois de la Knesset a approuvé un projet présenté par un parti d'opposition qui interdirait la fourniture d'électricité ou d'eau aux installations appartenant à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Avec nous en ligne, Monsieur Jonathan Fuller, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'UNRWA. Monsieur Jonathan Fuller, comment réagissez-vous à ce projet de loi qui vient d'être approuvé?
Le problème, en fin de compte, c'est qu'il y a une population, la population palestinienne sous occupation, qui en souffre, et notamment à Gaza, parce que nous ne nous sommes pas permis de faire entrer l'aide humanitaire. Nous avons des entraves envers nos activités à l'intérieur de Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée. Et il faut que ces entraves cessent immédiatement.
Monsieur Fuller, avez-vous l'impression que l'acheminement des aides est plus facile aujourd'hui?
C'est sûr que c'est plus facile maintenant, vu que l'ampleur de cette guerre s'est réduite. En tant qu'humanitaire, nous avons besoin d'une situation où les armes se taisent, en fait.
Oui.
Ça continue, malheureusement, et ça reste une situation extrêmement triste. Et la situation humanitaire peine à s'améliorer. Mais c'est sûr que la situation opérationnelle devient plus facile quand il n'y a pas un niveau de guerre qu'on a vécu avant.
Quand vous dites ça continue, la guerre se poursuit, le cessez-le-feu n'est pas tout à fait effectif. C'est de cela qu'il s'agit, Monsieur Jonathan Fuller.
Effectivement, le cessez-le-feu reste fragile. Il ne faut pas que ça soit fragilisé encore plus. Mais par rapport à la situation avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, c'est sûr que c'est plus facile d'agir comme humanitaire. Par exemple, nous avons eu la possibilité d'ouvrir plus d'espace pour les enfants, d'espace pour le soutien psychologique, l'apprentissage, les cours de base. On a pu rétablir quelques opérations dans la ville de Gaza, par exemple. L'environnement opérationnel s'est amélioré, mais c'est loin d'être l'amélioration nécessaire, en fait.
Oui.
Donc, les entraves n'ont pas été levées. C'est pour ça que c'est un rappel à l'ordre, c'est un rappel à ce que sont les obligations. Nous avons toujours vu que le blocus, l'interdiction de faire entrer l'aide de l'UNRWA n'a pas été levée. Et ça, c'est un problème parce que nous sommes responsables de peu près la moitié des stocks d'aide humanitaire
oui.
tenus par les Nations Unies en dehors de la bande de Gaza. Donc, il faut tout simplement que le blocus soit levé.
Absolument, vous faites bien de le signaler. Et nous rappelons que l'UNRWA constitue l'acteur humanitaire principal doté d'un lien unique unique et durable avec le territoire palestinien occupé.
Tout à fait. Et ça, c'était quelque chose de très important qui était souligné par la Cour internationale de justice, que nous sommes là, nous avons un mandat de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça, c'est important. Il faut que nous puissions remplir et respecter notre propre mandat et que notre mandat soit respecté. Et effectivement, à l'intérieur de la bande de Gaza, nous avons 12 000 membres de l'UNOA donc, oui. qui sont là et c'est nettement plus grand que le reste des Nations unies. Quelques centaines pour les autres agences. Donc, il n'est pas possible de mener une opération humanitaire sans l'UNOA. Nous sommes le colonne vertébrale ou même le corps entier de l'opération humanitaire des Nations Unies à Gaza. Il faut aussi que ce qui arrive là à Gaza, à l'encontre d'une agence des Nations Unies, des membres de ses équipes, il ne faut pas que ça devienne la norme. Il ne faut pas que ce soit normalisé au niveau mondial parce que ça, c'est très dangereux. On court vers la ruine, en fait, du système international et que ça peut se répéter partout ailleurs dans le monde sans que les comptes soient rendus. Ça, ce serait très, quelque chose de très, très grave.
Monsieur Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA, l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens. Vous étiez avec nous à partir de Amman. Merci infiniment, monsieur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Fowler.
Et merci à vous.
Zoom sur le monde.
La suite en musique avec le groupe A Day.
يا بابور اللوح درت لي جامرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي لغزالة البعيد وقلبي مجروح ديت لي لغزالة البعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الاسبار آه بابور النار حرمتني من كحلة الاسبار نسين المسار نسين المسار ياسين المسرار راهي ناريت شحال وتهيا مكواني سهران للقمر ونجوم تبان وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد راح شعر سود لبها والقد المكدود راح شعر سود لبها والقد المكدود والحاجب المجبور والحاجب المجبور والحاجب المجبور كي شباله للعيد والحاجب المجبور كي شباله للعيد قولوا
يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح ديتلي لغزالة البعيد
وحدي أنا يا كلمية فوق اللوح بكت عيني وسلام قلبي تعمر بجروح بكت عيني وسلام قلبي تعمر بجروح اديت العذراء خليت لي لا معيشة مرة اديت العذراء خليت لي لا معيشة مرة وقطعت البحر وقطعت البحر وقطعت البحر ديتها وخليتني وحيد وقطعت البحر ديتها وخليتني وحيد قولوا
يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي لغزالة البعيد وقلبي مجروح ديت لي لغزالة البعيد يا بابور النار
Très belle chanson du groupe Day Babor Loh. Nous, on se retrouvera en deuxième partie de ce magazine avec un autre programme, l'actualité sportive, en compagnie de Nassima Djaout. Il y aura également la rubrique TIC et médias. Reda Menassel nous emmènera au-delà de notre système solaire avec une découverte qui passionne les astronomes, un objet interstellaire repéré durant l'été 2025 et baptisé 30 Atlas. Ce corps céleste offre aux scientifiques une occasion unique de mieux comprendre la formation des planètes. Et puis nous suivrons la suite de la 26e édition du Salon international de l'artisanat avec Sida Ali Fares qui nous plongera au cœur de ce rendez-vous économique et culturel majeur qui réunit au Palais de la Culture les artisans et les professionnels. Tout ça, c'est en deuxième partie de ce magazine, ponctué bien sûr de musique, et c'est jusqu'à 19h.
Alger-Chin 3. Alger-Chin 3. 24h sur 24. 24h sur 24.
La suite du mag avec le point info trafic. Vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 021 48 15 15 pour nous informer de l'état de la circulation à travers toutes les wilayas.
Cheers. it's only a fool that you're making. I'm just saying.
Le point info trafic au 021 48 15 15 avec un premier auditeur, Mohamed, bonsoir.
C'est Hamza.
Hamza Darbo.
Oui, Hamza Darbo.
Comment ça va? Hamza, on vous entend très mal, je pense qu'il est sur la route. Hamza, vous êtes là? Au 021 48 15 15. Oui, Hamza, on vous entend. On l'a perdu, c'est pas grave, il pourra rappeler d'ici la fin du point info trafic. Vous pouvez vous aussi nous contacter à travers ce numéro pour nous informer de l'état de la circulation, si c'est fluide, si ça circule bien ou bien si c'est bouchonné. Un autre auditeur, Omar, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment ça va? Ça va, merci.
Ça va, à part un peu circulation sur la route.
Vous êtes de quel côté?
Là, je suis sur la route menant de l'aéroport vers Ben Aknoun.
Oui.
Et là, je suis juste au niveau de Sévital.
D'accord, donc vous êtes bloqué, j'imagine.
Donc, sincèrement, bon, par rapport à hier et avant-hier, ça va un peu mieux. Bon, ça roule, c'est bloqué, mais ça roule quand même.
Ça roule par rapport, oui. Ben, c'est normal, en même temps, c'est l'heure de pointe. Je pense que tout le monde sort à la même heure. Je pense que c'est ça.
Exactement, exactement.
Oui.
Bon, mais heureusement que vous y allez à 3.
Hein. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous accompagner en musique, voilà, jusqu'à 19h.
Justement, c'est ça qui nous rassure un peu, qui nous disons... c'est la musique qu'on adore. On adore la musique et tout en roulant, en circulant sur la route.
Et nous, magnifique. Ça nous motive en tout cas à le faire tous les jours.
Non, moi, de toute façon, j'adore votre chaîne. Hein.
Eh ben, c'est gentil. Vous faites la route tout seul ou bien vous êtes accompagné?
Non, je suis tout seul. Je sors du bureau, là, je termine ma...
Ah oui.
La journée. Je rentre du bureau.
Oui.
Et voilà, là, je rentre tranquillement à la maison. Oui. Encore, je vais récupérer ma femme et mes filles.
Des fois, vous les récupérez. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Non, c'est aujourd'hui que je vais les récupérer.
Ah, aujourd'hui, d'accord.
Voilà, ça va en salle de sport, je vais les récupérer à la Rachel. Bon, c'est pas loin. Comme j'habite moi dans le même, donc c'est bon.
Oui,
enfin,
très loin. J'espère que ce sera fluide, en tout cas.
J'espère. Oui. Non, mais de toute façon, je suis habitué. Hein. Je suis habitué, je prends mon mal en passant, c'est tout.
Voilà, et nous, on est là encore une fois pour vous accompagner. Merci beaucoup de nous avoir informés.
C'est nous deux, seulement faites-nous passer de la bonne musique, s'il vous plaît. Moi, je suis une ancienne génération.
Oui.
J'aimerais bien écouter les anciennes chansons.
Ah oui, les anciens, voilà. Ouais, les Beatles et compagnie.
Exactement, voilà.
Notre réalisateur s'en chargera. Lui aussi, il aime cette époque. Donc voilà, il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai 67 ans, donc j'aimerais bien écouter les Beatles, les Pink Floyd.
Oui. Vous êtes très nostalgique. Eh ben, il n'y a pas de problème. On le fera. Au revoir et bonne route, bonne rentrée.
Merci à vous de même. Bonsoir.
Au revoir. Tous les auditeurs sont sympas à l'après-midi, donc même s'ils sont coincés dans les bouchons, eh ben ça leur fait plaisir de nous contacter, d'écouter de la musique. Et nous, ça nous permet de rester informés de l'état de la circulation, en tout cas à travers toutes les wilayas. Une auditrice, Hanan, au 020. Manel, ML, on va y arriver hein, parce que j'entends très mal. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va, merci. Et vous?
Alhamdoulilah, merci. Vous êtes de quel côté?
Du côté de Ben Aknoun, les Asphodèles, Châteauneuf, les Bières, c'est bouché. Chevalet, c'est bouché.
Vous avez fait tout ça?
Oui.
Bon courage à vous, la vérité, c'est vrai. Bah, en même temps, il y a beaucoup d'écoles de ce côté-là, il y a beaucoup de sorties,
oui,
il y a beaucoup de...
Fait.
Oui,
tout
donc,
à fait.
Donc c'est normal.
Avec le centre commercial et tout, donc il y a...
Ça crée beaucoup d'embouteillages, c'est normal. Oui. Vous allez où? C'est où la destination finale?
Je vais sur Ben Khadem et là je viens de rentrer du côté de l'autoroute, du côté de Hydra.
C'est bloqué. C'est normal.
Ouais.
Donc,
voilà.
En tout cas, nous, comme je le disais à l'auditeur précédent, on vous accompagne du mieux qu'on peut.
Merci à vous.
Merci en tout cas de nous avoir informés et bonne rentrée.
Merci. Allez, bon courage.
Au revoir. 021-48-15-15, je pense qu'on va prendre le dernier appel du point info trafic. Et puis ça nous fait plaisir de vous parler et de vous accompagner jusqu'à chez vous, à travers toutes les wilayas. Sifax, direction Béjaïa. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Comment ça va?
Ça roule.
Ça roule sur la 3. Il est original votre prénom, Sifax.
C'est le prénom, j'ai emprunté le prénom de mon fils. Moi, c'est Kherdine, donc j'aime utiliser le prénom de mon fils.
Ah ok, t'es très original aussi. Ça c'est pas mal. Voilà. Même si Kherdine c'est joli aussi. Hein. Voilà.
Merci.
Voilà. Ça se passe bien à Béjaïa?
Non, je ne suis pas à Béjaïa. Là, je suis sur l'autoroute vers Oran. Je suis exactement à Ouadraïou.
D'accord.
Bon, je suis routier.
Oui.
Donc, ça roule très bien par ici. Donc,
c'est fluide, c'est tranquille.
Oui, tranquille.
Vous faites souvent Oran ou bien c'est rare?
Bon, je fais les 5... Oui, je suis souvent. Donc, je suis routier, donc je fais les 58 wilayas. Le matin, j'étais à Team Gad chez eux.
Ah oui.
J'ai fait le premier déchargement. Là, je suis vers Oran pour faire un chargement. Donc, route au Alger, on ne sait pas.
Bon.
Mais ça roule très bien. Toute la matinée.
Heureusement que c'est fluide.
Ouais, avec le climat, il est bon, donc ça roule très bien.
Voilà, vous profitez un peu du paysage quand vous en trouvez. Voilà.
Ouais, on profite du désert. Le désert, le nord, c'est bon.
Vous avez fait le tour. C'est vrai que le désert, c'est...
Ouais, c'est plus apaisant. Le
exactement.
Désert est plus apaisant. C'est vraiment une certaine évasion, on s'y va dans la matière.
C'est un anti-stress, le paysage, Kherdine. Sifax.
Oui. J'ai pas compris.
Je vous ai dit, c'est apaisant, les paysages.
Oui.
Du sud.
Surtout avec le changement.
Oui.
Il faut changer.
Exactement.
Avant, je fais la routine est-ouest. Après, j'ai changé. Plus le désert, c'est vraiment.
Eh ben, vous
on
avez.
On a un grand pays quand même, hein, on a un grand pays, on doit profiter.
Eh ben, vous avez bien fait, Sifax. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé.
À vous aussi. Bonne fin de journée.
Merci. C'était le dernier appel avec notre dernier auditeur. En tout cas, on vous retrouve pour la deuxième partie du magazine avec l'actualité sportive. Nassima Djaoud sera en notre compagnie et il y aura bien sûr la rubrique TIC et médias et l'actualité culturelle avec Sid Ali Fels. Il est 18h sur Alger-Chin 3, place au sommaire avec Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir.
Leïla Djibol, bonsoir. Bonsoir à tous. Et au sommaire du 19h, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réservé un accueil officiel à son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. En visite officielle en Algérie, les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête élargis aux deux délégations. De nombreux accords bilatéraux ont été signés à l'occasion dans divers domaines. Les deux chefs d'État saluent le renforcement de la coopération et affichent une convergence de vues sur des questions internationales et continentales. À l'Assemblée populaire nationale, le débat sur le projet de loi de finances 2026 prend fin ce soir avec l'intervention des présidents des groupes parlementaires, intervention suivie par la réponse du ministre des Finances aux interrogations soulevées. La commission finance de l'APN qui a proposé des amendements en écoutera son rapporteur. L'Agence algérienne de promotion des investissements et le ministère allemand de l'économie ont signé aujourd'hui un accord de jumelage, un programme pour l'échange d'expertise et soutien aux investissements mais aussi le développement de l'économie nationale. La situation humanitaire à Gaza reste préoccupante. Peu d'aide parvient aux habitants. L'UNRWA dénonce les entraves de l'occupation. L'entité sioniste qui vient, à travers son parlement, voter l'instauration de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens. Une nouvelle violation des droits palestiniens. On écoutera un juriste international dans l'édition du soir. Maladie transmissible en Algérie. La situation est maîtrisée. Le ministère de la Santé rassure. C'était lors d'une rencontre tenue aujourd'hui. Financement de l'entrepreneuriat étudiant. Un fonds d'investissement est créé. Un guichet unique est bientôt mis en place, a annoncé le recteur de l'université Alger 3. Il était l'invité du jour sur nos ondes. Et puis on parlera de sport, de football, forfait pour Amin Tougaï lors des prochains matchs amicaux face au Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. C'est le troisième pour la sélection nationale. Et voici venir les prévisions météo. C'est avec vous, Leïla Djibol.
Bonsoir à tous. Les prévisions pour cette nuit sur les régions nord, littoral, intérieur et les hauts plateaux ainsi que les Aurès. Le ciel restera généralement dégagé avec des vents variables d'est qui souffleront de 15 à 30 km heure. Sur les régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé avec des vents d'est à nord-est de 20 à 30 km heure pouvant atteindre les 40 km heure sur le Sahara central, accompagné de quelques soulèvements de sable locaux. Sur les autres régions, les vents seront variables à secteur sud de 15 à 30 km heure et pour les températures de la soirée, il fera 13 degrés à Alger et à Oran, 4 degrés à Sétif, 5 degrés à Betna et Constantine, 15 degrés à Béjaïa, 10 à Annaba, 18 degrés à Ain Salah, 9 degrés à Tizi Ouzou, 19 degrés à Tindouf et 21 degrés à Bojd Bedji Mokhtar. Bienvenue dans la deuxième partie du magazine avec l'actualité sportive en compagnie de Nassima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir Leïla.
Ça va ?
Très bien, et vous ?
Très bien. On commence par du football et ouais. Mohamed Amin Tougay forfait face au Zimbabwe et à l'Arabie Saoudite. Deux matchs amicaux qui entrent dans le cadre de la participation de la sélection nationale en perspective de la CAN 2025.
Oui, le défenseur international algérien de l'Espérance de Tunis, Mohamed Amin Tougay, a déclaré forfait pour les deux matchs amicaux face au Zimbabwe et à l'Arabie Saoudite prévus le 13 et le 18 novembre à Jeddah en raison de blessures. Après avoir été examiné par le staff médical, il s'est avéré que le joueur n'est pas apte pour les deux confrontations amicales. En concertation avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic, il a été décidé de libérer le joueur du stage pour éviter toute éventuelle complication de sa blessure et lui permettre de poursuivre les soins avec son club. Il s'agit de la troisième défection chez les Verts après le défenseur du Borussia Dortmund Alame Ben Sebaini qui souffre de douleurs lombaires et le milieu offensif de l'Eintracht Francfort Fares Chaibi, victime d'une blessure musculaire au niveau de la cuisse contractée lors du dernier match de son équipe en Bundesliga. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, je le rappelle, a dévoilé jeudi une liste de 27 joueurs en vue des deux matchs amicaux face au Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, marqués par la présence pour la première fois du jeune défenseur du Borussia Dortmund Elias Benkara, 18 ans, et du milieu de terrain Yassine Tetraoui, qui évolue à Charleroi en Belgique. Le sélectionneur national, justement, Vladimir Petkovic, a une vision à court et à long terme.
Moi, je travaille à court terme, mais avec une vision à long terme. J'aimerais aussi que, si je pars, ceux qui viennent après moi puissent profiter du travail de préparation qu'on a fait. C'est clair, mais c'est un petit peu aussi le cas que beaucoup de joueurs sont maintenant dans l'équipe nationale et pris dans l'équipe nationale, dans le secteur défensif. Et j'espère que cette décision puisse me donner de la satisfaction et donner aussi la réponse que ce qu'on a essayé, ce que j'ai essayé de faire, est bon. Et on l'a déjà vu dans le dernier stage. C'est clair que chacun des joueurs pense dans sa tête qu'il est meilleur par rapport aux autres. Moi, je dois évaluer, je dois écouter, je dois tout prendre, mais à la fin, je dois faire des choix. Et je suis le sélectionneur de l'équipe nationale et c'est moi qui dois prendre les choix définitifs.
E alla fine decidere perché io sono selezionatore.
C'était Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'équipe algérienne. Justement, l'équipe algérienne a effectué hier soir sa première séance d'entraînement à Jeddah et aujourd'hui également une séance d'entraînement en prévision de la première rencontre amicale face au Zimbabwe jeudi au stade du Roi Abdallah à 17h30, bien entendu dans le cadre de la préparation des Verts en prévision de la CAN.
Et l'international algérien Rayan Aitnouri préfère remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 que de briller au Mondial 2026.
Ah oui, il y a des choix à faire.
Eh oui.
Il y a des joueurs.
Il faut faire les bons choix.
Oui. Enfin, c'est des préférences. Oui. C'est le coup de cœur. Et le défenseur international de Manchester City, Rayan Aitnouri, a indiqué qu'il privilégiait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations que de briller lors du Mondial 2026. Je rappelle, l'Algérie est qualifiée pour les deux événements. Absent lors des deux derniers rassemblements des pour cause de blessure, le latéral gauche algérien signe son retour en sélection à l'occasion des deux matchs amicaux. On en a parlé, le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, prévus donc jeudi et mardi prochain à Jeddah. L'ancien joueur d'Angers, qui a 24 ans, a également évoqué ses préférences personnelles à la question de choisir entre la Ligue des Champions d'Europe et la Coupe du Monde. Aitnouri a opté sans hésiter pour la Coupe du Monde avec la sélection. Et enfin, interrogé sur le duel légendaire entre l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, Aitnouri a répondu, je le cite, « Les deux sont exceptionnels, mais si je devais choisir, je dirais Cristiano, même si Messi reste un joueur incroyable. » Et en parlant de Cristiano Ronaldo, justement, Cristiano Ronaldo a déclaré aujourd'hui que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière, alors qu'il a entamé enfin, à la fin de l'un de ses parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football. Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons. Soit il a déclaré, soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore 1 ou 2 ans.
Peut-être une dernière Coupe du Monde.
Exactement. Quoique le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du Monde.
Ce qui est sûr, c'est qu'il va se marier. Ça, on le sait.
Il va se marier, ça, c'est ça. Oui, bon. Mais là... là
il a déclaré aussi, n'est-ce pas?
Eh, bah, écoutez, voilà. Bah,
avec Georgina, d'ailleurs.
Oui, bah, ouais. Mais comment? Je le voyais mal se marier avec Fatima. En tout cas, le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du Monde et pourrait l'être en battant l'Irlande. Ça va se dessiner jeudi prochain.
Et l'équipe nationale des joueurs locaux se trouve depuis hier au Caire en Égypte pour préparer ses deux rencontres amicales face à l'Égypte en vue de sa participation à la Coupe arabe prévue au Qatar au mois de décembre prochain.
Les A-prime sont arrivés donc lundi, hier soir, au Caire, où ils ont effectué déjà, ils commencent à préparer la Coupe arabe. Il y a un stage de préparation du 10, depuis hier, au 18 novembre. Ce rassemblement sera ponctué par deux rencontres amicales face à l'Égypte A-prime, programmées le 14 et 17 novembre au stade Selem. La liste dévoilée par la Fédération algérienne de football est marquée par la convocation du meilleur buteur en activité de l'équipe algérienne A, Islam Slimani, qui évolue à Cluj, en Roumanie, et le meneur de jeu de la JS Kabylie, Riyad Boudbouz. Bouguera a également fait appel au défenseur Abdelkader Badran, qui évolue à Damak, en Arabie Saoudite, et au prometteur attaquant du CS Constantine, Nassim El-Roul. L'équipe nationale des A-prime disputera deux matchs amicaux, comme je l'avais dit tout à l'heure, face à l'équipe égyptienne A-prime, vendredi 14 novembre à 14h, et lundi 17 novembre à 16h au stade SLM du Caire au Qatar. La sélection algérienne jouera dans le groupe D aux côtés de l'Irak ainsi que des vainqueurs des barrages Bahreïn, Djibouti et Liban, Soudan, des rencontres qui sont prévues le mercredi 26 novembre. L'Égypte, quant à elle, est versée dans le groupe C aux côtés de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis ainsi que le vainqueur du match barrage opposant le Koweït à la Mauritanie, également prévu le mardi 25 novembre.
Et football toujours avec l'USMA fixé sur le calendrier des deux premières journées en phase de groupe de la Coupe de la CAF.
Oui, la direction de l'USMAG qui a indiqué hier soir avoir reçu une notification officielle de la CAF fixant le calendrier des deux premières journées du groupe A de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Ainsi, les hommes de l'entraîneur Abdelhaq Benchira débuteront leur campagne en recevant les Ivoiriens du FC San Pedro le dimanche 23 novembre au stade du 5 juillet à partir de 20h. Le match en déplacement face au club marocain de l'Olympique Safi, initialement prévu, programmé pour le 30 novembre, a été avancé au vendredi 28 novembre. Ce changement vise à permettre aux joueurs concernés de rejoindre leur sélection respective en prévision de la Coupe arabe 2025. Donc ça concerne donc l'Égypte et bien entendu plutôt l'équipe algérienne et c'est ce joueur concerné par non seulement la Coupe de la CAF, mais aussi la Coupe arabe.
On passe au volleyball avec la Fédération algérienne de football qui a conclu...
De volleyball.
Oui, exactement, qui a conclu un protocole de coopération avec la Fédération polonaise. C'était cet après-midi à Alger.
Oui, j'y étais. On a signé un protocole de coopération donc entre la Fédération polonaise de volleyball et la Fédération algérienne de volleyball. Convention paraffée par le président Mohamed Tamar Tadaza du côté algérien et du côté polonais Sébastien Swiderski. Le protocole donc comprend plusieurs aspects. Donc on parle du volleyball en salle, mais de beach volley. Les équipes nationales des deux pays vont faire des stages en commun, c'est des sparring partners. Et donc, il y a cette gratuité, justement, d'aller jouer des matchs amicaux contre les Polonais en Pologne et la Pologne qui pourrait également venir en Algérie pour disputer des matchs amicaux. Il y a également un autre aspect, c'est celui de l'expérience technologique. L'Algérie pourrait profiter de cet aspect. La formation également qui concerne les entraîneurs mais aussi les arbitres et donc chaque 3 mois un stage de recyclage des entraîneurs algériens en Pologne. Et puis moi la nouveauté qui m'a vraiment intéressée, c'est tout simplement des arbitres algériens qui officieraient des matchs en Pologne de championnat et des arbitres polonais qui viendraient également officier des matchs en Algérie du championnat bien entendu élite. Et sur justement ce protocole ce protocole de coopération entre l'Algérie et la Pologne. On écoute le président de la Fédération algérienne de volleyball, Mohand Tamartadaza.
Nous avons décidé de faire un partenariat direct sur ce qui est équipe nationale, que ce soit de salle ou de beach. Nous allons nous préparer en Pologne nos équipes nationales gratuitement et ils vont se préparer chez nous gratuitement. Nous allons bénéficier d'un sparring là-bas et d'un sparring ici. Le gain est plus algérien que polonais et ils le savent très bien. Nous avons décidé de leur offrir ce qu'on a comme bijou, qui est le Sahara. Nous avons 365 jours de soleil, chose qu'ils n'ont pas eux. Et pour ce qui est de nous, nous allons profiter de leur expérience, surtout sur le plan technologique, moyen, matériel et sparring. Le troisième volet, c'est le volet formation. La Pologne va former nos entraîneurs, nos arbitres, et nous allons même faire des échanges. Nous avons même décidé ce matin d'envoyer nos arbitres en Pologne pour arbitrer et recevoir même des Polonais ici pour nous officier certaines rencontres.
C'était le président de la Fédération algérienne de volleyball, Mohand Tamartadaza.
Vous le prononcez très très bien, Nassima,
oui, d'ailleurs. Je sais. Communément appelé, tout le monde l'appelle Tama.
Oui,
c'est
voilà.
C'est plus court, on sait tous qui est Tama. C'est Mohand Tamartadaza, le président de la Fédération algérienne de volleyball.
Et pour terminer, on passe au basketball avec la Supercoupe d'Algérie 2025. Messieurs, dames, les finales fixées au 1er janvier 2026.
Les finales de la Supercoupe 2024-2025 opposant le NB Stawali ou Nasser Hussindey chez les messieurs et Kossider à Hussindey Marine chez les dames se disputeront le 1er janvier 2026. Ceux qui vont fêter le nouvel an, ils pourront pas le faire, hein,
non,
ils vont dormir.
C'est pas possible.
Dans la programmation dévoilée aujourd'hui, l'instance fédérale n'a pas encore désigné la salle qui abritera ces deux rencontres. La Supercoupe masculine opposera, donc je le disais, le NB Stawali, vainqueur de la Coupe et du championnat la saison dernière, et le NED, vice-champion d'Algérie, puisque cette équipe du NB Stawali a gagné et la Coupe et le championnat. Elle ne peut qu'affronter son vice-champion. Et chez les dames, la finale mettra aux prises des championnes d'Algérie, Kossider, aux détentrices de la Coupe d'Algérie, Hussindey Marine.
Merci Nassima Djaout. On vous retrouvera pour l'essentiel de l'actualité sportive dans le journal de 19h avec Sofiane Saouli. La suite du magazine en musique avant de retrouver le reste de l'actualité. Un classique du groupe ABBA, Dancing Queen. Et tout de suite, on passe au correspondant du jour dans le magazine.
Le correspondant du jour.
Direction Tiaret avec Houari Dilmi qui nous fait découvrir le métier de maréchal ferrant entre savoir-faire traditionnel et modernité.
En marge du festival culturel national de la chanson engagée qui se tient à Tiaret depuis vendredi dernier, une exposition est dédiée aux nobles équidés et ses métiers. Parmi les exposants, Yassine Yalabah, l'un des trois maréchaux ferrants encore en activité dans le wilaya, considéré comme le berceau originel du meilleur compagnon de l'homme. Pour Rabah, ce métier ancestral est en train de lutter pour sa survie. Mais la passion de cet art lui fait parcourir tout le pays pour parer et ferrer des chevaux qu'il dit connaître sur le bout des sabots. L'outillage de la ferronnerie coûte cher et presque en totalité importé de l'étranger, se désole. Une seule fourrure coûte aujourd'hui près de 40 000 dinars, ce qui représente un budget important pour les propriétaires de chevaux de course, ajoute-t-il. Formé par des maîtres étrangers dans le domaine de la maréchalerie, Yassine Yalabah, au vu de sa longue expérience et son savoir-faire, est sollicité par tous les centres équestres du pays, les propriétaires privés de chevaux de course ou encore des étudiants en sciences vétérinaires. Formé dans plusieurs métiers du cheval, dont la sellerie et bourrellerie, Yalabah nourrit le rêve de créer une école privée dans le domaine de la maréchalerie pour transmettre son métier ancestral aux jeunes. Aucun centre de formation en maréchalerie n'existe en Algérie. Le métier continue toujours à se transmettre de maître à apprenti, nous apprend-il. Et de conclure, pour moi, la meilleure symphonie est celle du son du marteau sur le fer chaud. De Tiaret, de Walid Elmi pour Alishan 3.
La suite du magazine en musique. Et tout de suite, on passe à l'actualité culturelle dans ce magazine. Avec la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel, un rendez-vous économique et culturel majeur qui réunit les artisans, les institutions et les professionnels comme l'ANGEM. Les détails avec Sidali Fels.
De nombreuses personnes ayant bénéficié du microcrédit dans le cadre du dispositif de l'agence ANGEM. La directrice générale de l'ANGEM, Souad Benjmid, revient sur les travaux réalisés par l'ANGEM.
Un travail de proximité, un travail de sensibilisation via nos sorties de terrain pour encourager les femmes au foyer qui maîtrisent le métier artisanal, dans plusieurs métiers, artisanat d'art et autres services, etc. Notre travail, c'est d'encourager ces femmes-là et aussi les jeunes, pourquoi pas, pour qu'ils arrivent à développer une micro-entreprise via son métier qui le maîtrise convenablement.
Présentez-nous les offres que propose l'agence aux artisans.
Tout ce qui est formation dans le métier, éducation financière, la gestion du micro-entreprise et aussi les e-commerce, maintenant tendance qui a permis la pérennité de leur activité. Nous offrons toutes ces formations qui sont de qualité et qualifiées par le BIT et la Banque mondiale. C'est-à-dire, on va les étudier avec un bagage très important qui leur permet de développer leur activité. Et notre partie qui plus importante, bien sûr, c'est le financement. Nous finançons l'achat de la matière première et aussi la création de l'activité que leur projet ne dépasse pas le seuil de 1 million. Nous travaillons aussi sur la création et améliorer leurs produits. Donc nous avons une panoplie de services, que c'est des services gratuits que l'ANGEM offre à toute personne et citoyen algérien qui souhaite développer un métier dans l'artisanat.
Est-ce que vous faites un suivi avec les artisans?
Bien sûr, nous offrons l'accompagnement tout au long du durée de financement. Je m'explique. Nous avons 8 ans de financement. Donc 8 ans de contrôle, suivi, évaluation. Pendant les 8 ans, nous travaillons sur l'évolution de cette entreprise. Au début, une activité qui démarre et après, nous proposons des formations au fur et à mesure avec le temps, l'évolution de son activité, bien sûr, pour qu'il arrive à créer de l'emploi. Et ça se fait exactement. Il y a des témoignages réels. Nous avons des chiffres qui peuvent interpréter ce travail qu'on fait.
Et pour les chiffres?
Nous avons 1 million de bénéficiaires qui a généré 2 millions d'emplois qui a été créé et nous avons organisé plusieurs séminaires de formation à tous les bénéficiaires de l'ANGEM sur le territoire national sans exception via les 574 cellules, les 49 agences et bien sûr les 10 antennes qui coordonnent tout ça avec nous.
Les artisans intéressés par un suivi et une aide par l'Agence nationale des gestions du microcrédit, ils exposent dans le cadre de la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel au Palais de la Culture Mofdi Zakaria.
C'était l'actualité culturelle avec Sidali Fels, place à la musique.
يا صلوا على النبي اصحاب عشره
On passe tout de suite à la rubrique TIC et médias. Et Reda Menassel nous emmène au-delà de notre système solaire avec une découverte qui passionne les astronomes, un objet interstellaire repéré durant l'été 2025.
Depuis quelques mois, les télescopes du monde entier observent un visiteur venu d'ailleurs. Il s'appelle 31 Atlas. Cet objet, détecté par le télescope hawaïen du même nom, semble provenir de l'extérieur de notre système solaire. Après Oumuamua en 2017 ou Borisov en 2019, c'est seulement le troisième astre connu à traverser notre voisinage cosmique avant de repartir vers l'inconnu. Ce qui fascine les scientifiques, en fait, c'est ça, composition et sa trajectoire. Contrairement aux comètes ordinaires, notre ami Atlas semble très très dense, sans queue gazeuse visible, et sa vitesse dépasse les 30 km par seconde. Autrement dit, il n'est pas prisonnier de notre Soleil. Les astrophysiciens y voient une occasion unique de comprendre la formation de notre monde. Chaque fragment interstellaire transporte de la mémoire chimique de sa région d'origine. Étudier notre ami Atlas, c'est comme feuilleter un échantillon du passé d'une étoile lointaine. Mais cette découverte pose aussi une question cruciale. Combien d'objets similaires passent chaque année près de la Terre sans qu'on les voit? Avec les nouveaux télescopes automatisés, l'astronomie de demain sera peut-être celle du mouvement perpétuel, où la frontière entre notre ciel et celui des autres se dissout peu à peu. À très vite.
C'était la rubrique TIC et médias avec Reda Menassel. La suite du magazine en musique avec le groupe Oasis, Stand By Me.
Stand by me, nobody knows the way it's
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera demain pour d'autres actualités. Merci également à Lila Wissi d'avoir réalisé ce magazine. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même station.
Since I come home, well, my body's been
Alger 3. Alger 3. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24.
I just wanted you to stay. wanted you to stay. Me, I just wanted you to stay.